Bienvenue dans Art Interview sur Art District, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel, qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture. Bonjour à tous, c'est Julie Chaise-Martin dans Art Interview, et cette semaine je vous emmène au cœur de la grande exposition du centenaire de la mort de Rodin au Grand Palais. Quelques bruits de dernière mise en place, c'est l'accrochage, juste avant l'ouverture. Et devant le grand Balzac en plâtre, c'est Hélène Marot, chargée des sculptures au musée Rodin, qui me présente cette exposition événement, visible jusqu'au 31 juillet. Rodin redonna un nouveau souffle à la sculpture de son temps et inspira beaucoup d'artistes. Attardez-vous devant les œuvres majeures, bien sûr, mais aussi les dessins et les aquarelles, les créations d'artistes comme Bourdel, Lembrook, Brancusi, César. Et dans l'avant-dernière salle, Germaine Richier, Alberto Giacometti, Willem de Kooning, Baselitz, Barry Flanagan ou encore Marcus Lupertz. La dernière salle, enfin, montre des petits chefs-d'œuvre d'une collection particulière et vous fait goûter le plaisir d'être un instant un collectionneur chanceux et éclairé. Bonjour Hélène Marot, ravie d'être avec vous aujourd'hui. On est dans l'exposition Rodin au Grand Palais, une exposition qui célèbre le centenaire de la mort de Rodin. Rodin, sculpteur très connu bien sûr, un corpus d'œuvres très vaste. Comment vous avez fait une sélection d'œuvres? Comment vous avez pensé cette exposition?
En fait, il y avait comme un peu un challenge, c'est que le musée a réouvert il y a un an et demi. Donc maintenant, le musée Rodin, qui est juste rive gauche, tout près du Grand Palais, présente vraiment une vision très complète et très renouvelée de l'œuvre et du travail de Rodin. Donc c'était un petit peu difficile. On ne pouvait pas refaire la même chose. On ne pouvait pas faire une simple rétrospective Rodin, dans la mesure où le musée Rodin se trouve juste de l'autre côté de la Seine.
Donc il fallait faire découvrir de nouvelles choses, sans faire une redite de ce qui se trouve déjà au musée Rodin.
Voilà, c'est ça. Et dans la mesure où c'est un centenaire, le centenaire, ça permet de voir en fait un peu l'impact, l'onde de choc de Rodin depuis sa mort jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, on a un peu revisité aussi le travail de Rodin en l'articulant autour de trois grandes parties. Une partie, donc le Rodin expressionniste, qui culmine avec la Porte de l'Enfer. Le Rodin expérimentateur, qui à partir de 1900 et de l'exposition de l'Alma, prend plus de recul sur son œuvre, sur son travail, de manière un peu plus conceptuelle presque, avec des œuvres qu'il réutilise, qu'il agrandit, qu'il réduit, qu'il assemble, qu'il recompose. Et la dernière partie est consacrée beaucoup plus à l'art moderne et contemporain, en fait, à la création du milieu du XXe jusqu'à aujourd'hui, avec des artistes comme, bien sûr, Giacometti, Germaine Richier, César, Lupertz, Gormley, j'en cite que quelques-uns. Mais le lien entre tous ces artistes, c'est vraiment, ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, été, entre guillemets, impactés par Rodin. Voilà. Donc il y a un peu un fil rouge qui est vraiment c'est chronologique mais sans lettres. C'est pas une rétrospective. Vraiment, la première partie, c'est vraiment de plonger tout de suite dans ce premier caractère, dans ce caractère expressionniste qui est très nouveau par rapport à l'époque qui est beaucoup plus conventionnelle. Donc on a cette ligne rouge du travail de Rodin, avec en regard les artistes contemporains de Rodin, par contre.
Oui, il avait un atelier. Hein. Des jeunes artistes qu'il formait, et qui ont été aussi très impactés par cette création.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Rodin ne donnait pas proprement parler de cours. Lorsque des artistes venaient le solliciter, il leur disait « venez et travaillez auprès de moi ». Il leur confiait des travaux, souvent les pieds ou les mains, parce que c'est des choses très difficiles à faire, donc c'est des bons exercices. Bourdel, par exemple, était praticien dans l'atelier de Rodin pendant très longtemps, alors que lui-même, c'est un très grand sculpteur. Il y a aussi des sculpteurs comme Jeff Lambeau, qui est belge, des sculpteurs comme Mine, qui est belge également, Mestrovic, qui est croate. Alors, il y a une seule petite anomalie dans la première section, il ne faudra pas trop vous étonner. Lorsque vous rentrez, vous tombez sur une immense sculpture qui rappelle... qui est de Baselitz, dont la forme reprend, enfin c'est un petit peu un vis-à-vis du penseur. Donc là par contre c'est très contemporain et il a été placé là simplement parce qu'il ne rentrait pas au premier étage dans la salle des contemporains. Donc ne soyez pas trop choqués, et s'il se trouve là c'est vraiment aussi à cause des contraintes purement techniques.
Alors il est aussi à côté du penseur.
Il est à côté du penseur.
C'est comme un écho même au penseur. Alors c'est vrai que dans la première salle il y a les grandes sculptures assez connues, où on retrouve, le grand public peut retrouver
retrouver ce qu'il connaît de Rodin.
Oui.
Et puis petit à petit, dans une scénographie assez épurée,
oui.
Hein, vous qui êtes chargé des sculptures au musée Rodin, je pense qu'il y a vraiment une attention particulière ici à plonger le visiteur à travers les formes, les formes très spécifiques de Rodin sur les mains, les visages, les corps un peu contorsionnés aussi.
Oui, c'est toute cette première partie, cette première veine expressionniste. C'est vrai que donc le scénographe est Didier Blin, qui a une équipe formidable, mais vraiment il connaît parfaitement la sculpture, il connaît bien aussi Rodin. Et donc la scénographie, elle est assez sobre pour mettre en valeur la sculpture, c'est pas la scénographie qui se met en scène elle-même. Et puis alors il y a aussi ce qui n'était pas facile non plus, c'était de distinguer Rodin et les autres artistes pour des regards un peu moins avertis. Donc on a joué sur les cartels, Rodin était écrit en rouge, les autres artistes c'est en noir. Voilà, il y a aussi des petits comme ça clins d'œil visuels qui permettent un petit peu de se situer par rapport à Rodin et par rapport aux autres artistes. Alors la plupart des œuvres sont quand même en plâtre, surtout à cette période. Donc c'est vrai que le choix des tons sont assez clairs, mais déjà les expositions de Rodin de son temps en 1900 par exemple, au 1902, 4 à Düsseldorf, au Prague, Rodin parle de cette blancheur, il aime le blanc, et les critiques de l'époque parlent de cette atmosphère de cette blancheur. Donc c'est vraiment tout à fait dans l'esprit, dans l'atmosphère du temps de Rodin.
Voilà. Est-ce qu'on a quelques Camille Claudel aussi dans cette exposition?
Oui, bien sûr. Il y a donc, vous avez dans la partie aussi expressionniste, il y a dans la partie des vieilles femmes et des femmes un peu torturées qu'on retrouve dans La Porte de l'Enfer. Il y a cette figure absolument incroyable qui s'appelle Clotho, qui est d'habitude exposée au musée Rodin, donc qui a traversé la Seine pour l'occasion, qui donc se retrouve dans cette salle. Et c'est vraiment une figure très marquée, avec une chevelure qui est presque une tignasque, mais presque des liens qui couvrent le visage. Et Clotho était une des trois parques de la mort, en fait celle qui coupe le fil de la vie. Et elle est vraiment, c'est une œuvre qui est vraiment très forte et très, très à la fois tragique et pathétique, mais qui est très forte.
Rodin a donné un nouveau souffle à la fin du 19e siècle à l'art de la sculpture. Il a aussi choqué.
Bah oui, en fait, il était en avance sur son temps, comme beaucoup de grands artistes, mais il n'a jamais revendiqué cette espèce d'avant-garde. Au contraire, il en souffre même, parce que quand même pour les sculpteurs, la commande publique est très importante, même les commandes privées, mais surtout les commandes publiques, parce que c'est quand même un moyen de subvenir à ses besoins. La sculpture, c'est un art qui coûte très cher, les matériaux coûtent très cher, et donc les commandes publiques sont vraiment vitales pour eux. Et Rodin est très enthousiaste dès qu'il a une commande publique, que ce soit donc, pour les bourgeois de Calais, c'est bien plutôt bien passé malgré tout, mais que ce soit pour Victor Hugo, Balzac, pour la Miss Whistler, à chaque fois qu'il y a des commandes publiques, Rodin est très enthousiaste, mais finalement au fil du temps ça se corse, si je puis dire, parce que Rodin propose quelque chose que le commanditaire ne peut pas recevoir, comme pour le Balzac. On s'attendait à un Balzac reconnaissable avec un vêtement d'époque, une petite plume qui évoque l'écrivain. Et Rodin fait une espèce de menhir, donc c'est vraiment, il veut montrer vraiment la puissance d'un créateur, donc il n'a pas besoin de petits attributs descriptifs. Et donc c'est un scandale pas immense, parce que le commanditaire et une grande partie du public de l'époque n'est pas capable de recevoir ce que Rodin propose, mais Rodin en est le premier meurtri. Mais par contre, Rodin fait vraiment confiance à la postérité et à l'avenir. Et c'est pour ça qu'en 1916, il fait une donation à l'État de tout son travail, de son œuvre, de ses collections, et même de sa maison de Meudon, et aussi des droits d'exploitation de son œuvre. C'est-à-dire que le musée, actuellement, est ayant droit de l'artiste. Donc le musée a l'autorisation de fondre des bronzes originaux, limités à 12 exemplaires, mais comme ayant droit de l'artiste. Et ces bronzes ne sont pas des reproductions. Donc voilà, Rodin a comme ça un peu anticipé l'avenir. Il avait vraiment une grande confiance pour que les générations suivantes reconnaissent son travail.
Merci beaucoup, Hélène Marot. On va s'arrêter là. Il y a un peu de bruit qui arrive à nos oreilles. En tout cas, on a bien compris le but de cette exposition, de montrer l'impact que Rodin a eu sur ses contemporains, mais aussi évidemment sur beaucoup d'autres artistes contemporains, suiveurs de Rodin, qu'on peut découvrir également dans cette exposition. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.